Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Olivier Daligo et Séverine Bonhomme à la technique, et assisté de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Alors, une petite humeur en compagnie de nos amis du magazine Géo qui fête ce mois-ci 30 ans de voyages, d'explorations, de récits et d'albums photos qui nous montrent la Terre avec des yeux d'amoureux. Et oui, une histoire d'amour, on peut le dire, passablement tumultueuse, hein, que cette relation ambiguë entre cette mère nature et puis son fiston à deux pattes, au tempérament rebelle, tendance un peu Terminator. Et pourtant, comme on dit, le pire n'est pas toujours certain. Alors plongeons par exemple au pays des Bishnoi. Qui sont-ils ? C'est une communauté de villageois qui vivent au cœur du désert du Rajasthan, donc au nord-ouest de l'Inde. Et là-bas, entre l'homme et la nature, eh bien, on file le parfait amour. Une fibre écologique qui ne date d'ailleurs pas d'hier, hein, mais de l'an 1485 pour être précis. 1485, rappelez-vous, Gutenberg a fini d'imprimer sa Bible en 180 exemplaires, Christophe Colomb fête ses 30 ans lui aussi et rêve de se lancer à la conquête de l'Inde. 1485, donc les Bishnoi du Rajasthan n'ont pas attendu le Grenelle de l'environnement. Ben non, leur gourou s'appelle Jamboji, et Jamboji et ses 29 préceptes dont notre gente politique moderne pourrait s'inspirer de temps à autre, du genre « tu réfléchiras deux fois avant de parler », « tu t'interdiras la langue de bois », et puis surtout « tu protégeras les animaux sauvages et les arbres », à commencer par les kejris. Les kejris sont des arbres particulièrement bien adaptés à la sécheresse et qui font des villages Bishnoi de petites oasis au milieu du Thar, qui est le grand désert du Rajasthan. Alors, une règle que les Bishnoi appliquent au pied de la lettre, puisque en 1730, lorsque le Maharaja ordonne d'abattre les kejris pour faire du bois, et bien les Bishnoi sont des centaines à sacrifier leur vie pour sauver les arbres. Face au massacre, le Maharaja repenti promet de protéger les arbres des Bishnoi et créer sans le savoir la première réserve naturelle de l'histoire de l'écologie. Ils ont d'ailleurs aussi créé l'écotaxe et puis le châtiment en cas de transgression écologique. Bon, alors, une histoire qui n'a pas encore dit son dernier mot, si on en croit d'ailleurs aussi le sondage qui est publié par Géo, et qui nous apprend que les trentenaires d'aujourd'hui, s'ils n'en sont pas encore à se battre pour sauver les forêts de leur région, sont malgré tout de plus en plus nombreux à se préoccuper de l'évolution du climat. Ouf, enfin, des trentenaires qui, de Pékin à Bogota, en passant par Belgrade ou Jakarta, ne semblent globalement pas mécontents d'habiter sur notre petite planète. Ils ont raison, hein, parce que du côté de la banlieue stellaire, ça semble un peu hostile. Et ils souhaitent que l'on mette le paquet sur les énergies renouvelables bien avant de développer le nucléaire. Je les rassure, en France, ils ne seront pas entendus. Et puis, tenez, on en profite pour s'offrir un petit détour par le Mexique, invité d'honneur au Salon du Livre, où nous retrouvons, d'ailleurs on se retrouvera en direct samedi prochain, je vous le signale tout de suite, pour fêter les 30 ans de nos amis Globetrotters. On ne résiste pas au bonheur d'emprunter quelques mots à l'écrivain Carlos Fuentes. Et oui, c'est ici que le sort nous a jetés, que pouvons-nous y faire sur la plus belle planète de l'univers ? Le sexe fort n'est plus ce qu'il était, c'est ce que nous dira Jean-Marie Pelt dans La raison du plus faible dans quelques instants. Et puis, grande balade, vous avez besoin d'air, vous revenez peut-être sur la route des vacances, et bien vous aurez encore de l'air, tenez, écoutez.
Pour moi, la forêt, je l'accepte telle qu'elle est, et dans son ombre, et dans sa nuit, et je me sens chez moi. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas une opposition en fait à cet environnement. Je crois qu'il est comme il est et il faut le prendre comme il est et le comprendre, le cerner, le pourquoi. Pourquoi d'ailleurs des arbres ont cassé par la neige, pourquoi celui-là plus qu'un autre. Et tout ça en fait fait révéler plein de choses.
Alors un homme en osmose avec la nature, ça vous dit pas où on est? On est sur le Mont Lozère, on est sur les contreforts du Mont Lozère, donc je vais vous emmener dans ce superbe département avec à la fois Hugues Paris et donc François McGuinier, ce sera notre balade du jour. Et puis on va fêter, alors là aussi, on va y en fêter un numéro 1, vous voyez, il n'y a pas que les 30 ans de Géo, on va fêter aussi donc la nouvelle formule de Terra Eco avec Walter Bouvet qui est un des cofondateurs de Terra Eco. Walter, bonjour.
Bonjour Denis.
En 72, juste un petit chiffre, hein, l'humanité consommait 85% de ses ressources renouvelables. Aujourd'hui, c'est 125%, autrement dit, on est en train de bouffer le capital et pas seulement les intérêts. On sait que notre planète est bien cabossée, mais dans votre revue, et c'est aussi un peu comme dans CO2, surtout ne pas céder à la tentation du pire.
ne pas céder à la tentation du pire, car il y a des initiatives individuelles, porteuses de sens, d'efficacité aussi, parce qu'il s'agit maintenant d'arriver à nos fins, en tout cas ceux qui souhaitent que les choses s'améliorent, changent. Et Terra Eco est le magazine de ces gens éco-citoyens, créatifs culturels, entrepreneurs sociaux, qui y croient encore et qui veulent se battre pour ça.
Et d'ailleurs, vous le dites, hein, ne pas se sentir coupable de vivre comme on nous l'a appris, mais en revanche, d'avoir vraiment devoir de changer cette affaire.
L'exigence, exactement.
Donc on y reviendra avec vous, on partira avec vous en Thaïlande, on partira en Inde, on parlera du yaourt, du bio à la cantine, donc effectivement pas mal d'actualités. Et puis on va débuter en musique, parce qu'on aime ça aussi sur France Inter. Ben oui, les embouteillages, tenez, pour se remettre dans le mouvement avec San Severino.
Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer, libres comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains, des gants. Ils vont tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses autant au temps coûtant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle, il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les quatre ailes. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant, mais en secret, ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les quatre ailes. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'autant, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler du sexe fort. On va se dire chouette, c'est un truc de mal cette histoire-là. Pas du tout. Dans la nature, racontez-nous aussi comment ça se passe.
Ben c'est la raison du plus faible. Le sexe fort n'est pas celui qu'on pense. On va évoquer des petits arômes. Vous savez comment c'est fait un arôme, à peu près. On voit à peu près comment c'est fait. Des petits arômes sauvages des forêts d'Amérique du Nord. Un botaniste a étudié plusieurs milliers d'arômes qu'il a mesurés. Ces arômes, en effet, ont une particularité, c'est que les uns sont mâles, ils n'ont que des étamines, et les autres sont femelles, ils n'ont que des pistils. Il n'y a pas des fleurs mixtes, ça n'existe pas chez ces arômes-là, ça s'appelle des arysémas. Alors il a remarqué que les mâles étaient plus petits, que les femelles étaient nettement plus grandes.
Comment se fait-il ?
Eh bien, comment se fait-il ? Eh bien, il se fait que si une femelle est broutée, Ou bien, si une femelle a fait un effort de reproduction considérable l'année précédente et qu'elle est fatiguée, ou bien si elle a eu un accident qui a réduit sa taille, voilà type pas qu'elle ne fait plus que des étamines et plus piscine du tout.
D'accord.
Parce qu'elle est transsexuelle en plus. Nous sommes ici chez des transsexuels. C'est très fréquent dans la nature. Voilà. Donc ici, on voit que quand la femelle est normale, elle est plus grande à peu près d'un tiers. Et quand la femelle devient petite parce qu'elle a eu un accident quelconque, eh bien, elle devient mâle. Et cette question pose problème parce que nous avons dans la tête notre modèle à nous où nous sommes les plus forts, les mâles. On est plus grand, on est en principe plus costaud, et donc on transporte cette idée sur la nature tout entière et on déclare les mâles sont les plus forts, les femelles sont les plus faibles.
Eh bien non.
Pas du tout. Dans l'immense majorité des cas, les femelles sont plus grosses, plus grandes que les mâles. On a tenté d'expliquer l'affaire. Alors on a dit ceci, on a dit la femelle, elle va garder l'enfant. Elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'elle devra le nourrir. Elle devra d'ailleurs nourrir aussi, l'embryon quand il va se fixer dans l'utérus. Donc elle va avoir besoin de ressources plus grandes que le mâle qui, quand il a donné ses spermatozoïdes, n'a plus grand-chose à faire dans le travail en question. Et ça expliquerait pourquoi les femelles sont presque toujours plus grosses que les mâles. C'est ça l'explication qu'on a donnée. On a donné une autre explication pour nous et pour les grands animaux où effectivement les mâles sont les plus grands. Alors on a dit, c'est parce que quand les animaux commencent à avoir un degré, disons, de conscience plus élevé, les stratégies de la reproduction deviennent subtiles, il faut séduire les femelles, et pour les séduire, il faut des réactions d'épatement, il faut donc étaler sa puissance, sa vigueur, sa force, et c'est à partir de là que, chez les animaux supérieurs, les mâles sont devenus plus gros. Mais chez les animaux inférieurs, non. Alors, il y a la merveilleuse histoire de la crépidule. Est-ce que vous connaissez la crépidule ?
La crépidule fornicatrice, s'il vous plaît.
Elle fornique pas du tout. Mais...
Vous l'avez baptisée ainsi, racontez.
C'est Linné qui l'a baptisée ainsi. Oui, parce que...
Donc c'est un coquillage.
Hein. Oui, c'est un coquillage. C'est une belle histoire aussi. Dans la Rome antique, les prostituées, elles étaient dans les caves voûtées, qu'on appelait des forniques. Ça s'appelait des forniques. C'est là qu'on forniquait, c'est de là qu'est venu le nom forniqué. Mais c'était l'aspect voûté qui avait frappé Linné. Parce que ces crépidules, elles avaient des beaux ronds, si vous voulez. C'est des petits animaux marins. C'est des sortes de moules qui sont rondes. Alors, il se pose une crépidule au fond de l'eau. Cette crépidule pousse. Elle devient une femelle. Là-dessus, il y a une crépidule qui est attirée par cette première crépidule et qui lui monte dessus. Bon. Non pas pour lui faire l'amour, mais parce que les crépidules sont extrêmement sociales et elles aiment vivre entassées les unes sur les autres. Mmh. Il s'en met 12 l'une sur l'autre, comme ça, ça fait une espèce de colonne de crépidules. Arrive une autre crépidule.
Elles sont contre l'étalement urbain.
Tout à fait, c'est tout à fait. Alors arrive une autre crépidule qui monte sur la deuxième, qui devient la troisième. Celle qui est en dessous, qui était mâle, devient illico-femelle et grossit. Mmh. Alors il y a la mâle et puis deux femelles en dessous. Arrive une quatrième qui monte sur la mâle, du coup la mâle en dessous devient femelle et grossit, et la mâle, et ça continue comme ça, jusque vers la dixième. Or, à partir de la dixième, douzième, le phénomène commence à s'épuiser, et puis la dernière petite qui arrive, elle reste mâle, il faut bien qu'il y ait un petit mâle dans cette affaire. Alors on estime que dans la pile, il y a deux ou trois mâles qui restent là. Alors, comment se comportent-ils ces mâles, puisqu'ils sont transsexuels, vous voyez, qu'ils changent de sexe. Au fur et à mesure qu'ils se font empiler, ils se changent de sexe. Alors, on a regardé ça de près, et on a remarqué que les mâles qui sont en haut Voilà, dis pas qu'ils ont un long pénis qui descend jusqu'en bas.
Ah bon ?
Et qui circule autour des crépidules.
Un peu comme une liane, quoi.
Oui, comme une liane, pour aller féconder les femelles qui sont en dessous de la pile. Donc, ils sont pas homo, les mâles. Non, non. Ils sont transsexuels, mais ils sont pas homo. Voilà. Alors ça, c'est un bel exemple où on voit que les femelles sont plus grandes le fait que quand elles changent de sexe, elles attrapent ce sexe femelle toujours. Alors la question se pose chez nous, comment c'est chez nous ? Bon, d'abord chez nous, les femmes vivent 7 ans de plus que les hommes. C'est un premier constat qui est quand même tout à fait frappant. Deuxièmement, vous comparez un veuf et une veuve. Les veuves sont généralement dans les avions et font le tour du monde. Les veuves sont à la maison et font péniblement la cuisine.
Non, mais c'est de l'humour, on vous le dit.
Mais bien sûr, si vous voulez, c'est de l'humour. Oui, je précise.
Ne nous écrivez pas.
Oui, et puis alors, les femmes accèdent à des situations enviables, ce que je trouve tout à fait souhaitable. Des fois, je me dis, mince, alors quand je rencontre une femme très, très dynamique, très compétitive, je me dis, zut, alors elle ressemble à un homme, celle-là. Alors, je suis désolé, parce que je voudrais que les femmes, quand elles sont ministres, quand elles sont chefs d'État, elles restent des femmes, ce qui serait merveilleux, avec toutes les qualités féminines dont nous avons besoin, nous les hommes, en tout cas sûrement. Oui. Voilà, alors les femmes, c'est les meilleures, c'est le sexe fort.
Très bien.
Donc vous voyez, la raison du plus faible, c'est qu'il y a tout qui s'inverse.
Donc c'était l'hommage à la femme forte.
C'est l'hommage à la femme forte, oui, tout à fait.
Donc vous n'avez pas fait une citation d'Aragon, c'est pas la peine, dans votre livre, enfin, on sent bien que c'est pas loin.
Il y a une femme forte dans la Bible qui est extraordinaire. Vous relisez ce texte de la Bible, vous voyez que la femme forte gère les affaires tambour battant, bien que ça soit une maman méditerranéenne, c'est quand même elle qui commande.
Bah oui, très souvent, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Bah tiens, la raison du plus faible, Jean-Marie Pelt, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir Denis, au revoir à tous.
Oui, c'est bien votre histoire d'environnement, là. Continuez à environner, nous, on sera toujours contentes.
Ah ben, venez, on vous suit, vous savez, on est prêts à vous pousser au derrière.
Hein. Vive l'environnement, allez-y,
oui, hop, allez, hop là.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Nyangura nyangura yeti ke fete bonna la mana mana kumate boy ne nkuruga
kanima kanima
otene usodi misa nyangura nyangura yeti ke fete bonna la mana mana kumate boy ne galulo
kanima
Garantie 100% Mali, c'était donc Cassé Mati Diabaté. Et maintenant, garantie 100% Lozère. Ah oui, c'est pas le même climat. C'est parti pour notre balade.
Tombée de la nuit, Mont Lozère, dans le département du même nom, avec des raquettes aux pieds. Donc si vous aimez le grand air, et ben vous nous suivez. D'autant qu'on a un guide qui connaît quand même très bien son affaire, c'est Hugues Paris. Et alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce Mont Lozère, qu'il y a, on va le rappeler, ce département a pris le nom d'une montagne, alors que très souvent il prend le nom d'une rivière. À quoi ça ressemble ce Mont Lozère ?
Ah, le Mont Lozère, c'est une montagne complètement mythique, puisqu'en fait c'est une grande barrière avant. Ouais. Avec des modes d'élevage, une tendance laitier sur le versant nord et versant sud, beaucoup de vaches à viande.
Ouais. Alors allez pas trop vite, Hugues, parce que vous vous êtes extrêmement affûté. Moi c'est le vélo, vous c'est la raquette.
Ah oui, ah oui.
Voilà.
Oui. On parle du silence de la neige, mais en raquette, il y a quand même un petit peu de bruit quand même.
Hein. Oui.
Les animaux sauvages quand même nous entendent de très très loin.
Destination l'ancien pays du Gévaudan et on va se retrouver sur le Mont Lozère dans le département donc du même nom avec de l'air, de l'eau pure garantie. 77 000 habitants me semble-t-il, leur pays tout à fait extraordinaire mais où certes il sera plus facile de se faire soigner par un vétérinaire que par un médecin. Alors quand on parle de Lozère on pense à des grands espaces, à des causses, vidage de votre disque dur à stress personnel garanti là aussi. Vous avez au nord l'Aubrac qui est saupoudré de basalte et de neige aussi en ce moment. Vous avez le calcaire du Sauveterre et du Causse du milieu, qu'on appelle le Causse Méjean, avec son navet normand. Vous avez le schiste de la Cévenne au sud. Et puis, vous avez le granit du Mont Lozère. Alors, c'est un lieu de tempête, de révolte, de guerre de religion entre les camisards et les catholiques. Et donc, il a un sommet qui culmine à 1700 mètres. Et là-haut, bah, vous avez l'air qui se régale, qui galope au sommet. C'est là que la tramontane, si vous voulez, reprend son souffle. Qu'elle construit des imaginaires, mais aussi elle défait les arbres qui sont trop ambitieux. Alors nous, on va se retrouver sur les contreforts en fait de ce Lozère. C'était il y a à peu près une semaine et demie. Dans le gîte, on est parti du gîte Duc Paris à Auriac, qui est sur le col de la Loubière. Bon, faut quand même pas s'engueuler avec ses voisins parce que vous avez à peu près 2-3 habitants au kilomètre carré là-bas. Et donc cet homme-là accompagne les groupes pour cueillir des silences habités. Et c'est donc une terre qui porte des gens, des histoires et puis des sources, on va le voir. On est dans ce parc national des Cévennes. Et donc nous partons avec Hugues Paris en raquette dans la neige à la découverte de ce massif. On retrouvera aussi François Maguigné, puis aussi bien sûr un chien qui nous accompagne.
Bon, on l'a passé devant parce que on a un passage un peu délicat. Ça, on va pas vous faire du Ushuaïa. Hein. Wow! On va se faire une petite halte face à ce ruisseau quand même. Allez, on va être sympa, on va dire que c'est un mini torrent quoi quand même.
Parce que... oh, c'est un petit ruisseau sur lequel bon, il fluctue pas mal entre l'été et l'hiver en fonction de la fonte des neiges, des ouais. pluies. C'est à la fois la faille que fait l'eau au niveau de la neige.
Et en plus, le ruisseau, c'est qu'il sera gagnant parce qu'il se dit, en fait, dans son fort intérieur, mais de toute façon, cette neige va m'alimenter.
Bien sûr.
Voilà, donc vous pouvez toujours tenter de me recouvrir, je serai le plus fort. Quoi.
Ben, je serai le plus fort, d'autant plus que cette neige, au fur et à mesure du recul de l'hiver, avec le rallongement des journées et le radoucissement de la température, toute cette neige va venir abonder les cours d'eau, ces petits ruisseaux qui vont ensuite, là, se jeter dans le Lot, qui est une rivière, une des rivières importantes du département de la Lozère.
Alors justement, François Maguigné, quand même, parce que on n'a pas eu le temps de vous présenter, hein, vous savez ce que c'est, là on est en train de marcher joyeusement. Bon, vous êtes un homme de la Lozère depuis longtemps, vous êtes un fin pêcheur, et vous connaissez ces eaux. Alors quand on parle de ce Mont Lozère pourvoyeur d'eau, pour une partie de la France, on va dire, qu'est-ce qui naît ici sur ce Mont Lozère ?
Alors oui, le Mont Lozère est un pourvoyeur d'eau, c'est une véritable éponge, hein, nous avons des tourbières importantes hein, sur le Mont Lozère, qui permet d'alimenter tout un réseau de petits ruisseaux, mais... même si la Lozère, dans son ensemble, donne naissance à de grandes rivières, hein, l'Allier, le Lot, la Truyère, le Tarn, la Lozère donne naissance à des cours d'eau, mais n'en reçoit aucun. C'est quand même particulier, il faut le dire.
Ah, d'accord.
Voilà.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on l'appelle, elle avait le nom de Château d'eau, Château d'eau de la France, et il devait s'appeler le département des sources, la Lozère, lors de sa fondation de département. Bon, on a retenu le terme de Lozère. Le mont Lozère, lui, en tant que tel, ne donne naissance véritablement qu'au Tarn. Alors, c'est pas rien, quand même.
Ah non.
Le Tarn, tout le monde, tous les Français et les étrangers connaissent le Tarn, qui est une rivière tout à fait symbolique de notre département.
Ils connaissent
notamment
mieux parfois les gorges du Tarn,
voilà,
que
alors
le département
du Tarn.
Du Tarn,
la plus spectaculaire étant Lozère. Mais le Tarn naît sur le mont Lozère. C'est d'abord un tout petit ruisseau aux eaux d'une limpidité exceptionnelle, Hugues. Hein, quand il serpente dans ces prairies, d'ailleurs, où on trouve dans ces tourbières, où on trouve la Drosera encore, hein, qui est une petite plante carnivore des zones humides. Il est tout à fait sympathique. Juste avant sa rupture, à proximité du hameau de l'hôpital, avec ses maisons, ses grosses bâtisses aux belles pierres de granit, avant sa chute sur le pont de Montvert, puis après ce qu'on appelle les petites gorges qui vont jusqu'à Florac, et après s'ouvrent les majestueuses gorges du Tarn.
Alors de ce mont Lozère, Hugues, dévale, on le voit, donc des ruisseaux, des torrents, je veux dire aussi des inondations, des croyances, des révoltes, des loups. Quand on dit terre de contraste, on est en plein dedans, quoi.
Oui, c'est vrai. Les premiers habitants, en fait, de Lozériens ont habité des cavités naturelles, donc des grottes, en fait. Et lorsqu'ils venaient chasser, ils venaient chasser sur les hautes terres du mont Lozère. Et on retrouve encore, aujourd'hui, donc des flèches perdues, ainsi que des éclats de silex qui ont été travaillés. De parcourir le mont Lozère, sachant qu'il y a eu déjà des chasseurs de la préhistoire, on y pense, moi j'y pense.
Et qui nous attendent peut-être derrière, parce qu'il y a encore l'esprit des lieux qui est là.
Oui, parce qu'en fait, comme il y a des chaos granitiques, et ces chaos n'ont pas bougé depuis des milliers d'années, et donc, naturellement, même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a trop de vent, lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il y a une situation de climat un peu extrême, ben, quelquefois, on est bien content de trouver ces chaos et de se mettre un peu à l'abri du vent, comme devaient faire certainement autrefois ces hommes-là.
On y va, qu'est-ce qu'on fait là? On continue encore un petit peu ou on se pose hein? Voilà.
Ok, ben
allez. Allez, zou, on y va.
On va franchir le
Rubicon. Allez, là, peut franchissez, François, le Rubicon local. Floc, floc. Alors là, on va arriver, en fait, presque sur le plateau. Alors, votre chien, il connaît les lieux par cœur. Hein.
Complètement,
oula,
complètement.
Comment il s'appelle,
c'est
Pépère, là?
Toundra.
Alors, parlons aussi un peu de choses qui fâchent ou bien qui enchantent. Bon, on est quand même dans le territoire du Gévaudan. Nous avons les parcs à loups qui fonctionnent bien sûr très bien. Ça a été un des premiers en France, du côté de Marvejol. On se dit que quand même, le loup ici peut trouver le gîte et le couvert.
Ah, alors là, sur le
nous écoute-t-il, là?
Oui.
D'où y es-tu?
Il est peut-être quelque part, là, en train de nous écouter. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, donc il s'est avéré un loup donc, qui est passé sur le mont Lozère.
Incontestablement, de toute façon, c'est des grands voyageurs, c'est des animaux qui aiment l'espace et les espaces sauvages. Donc,
ils traversent les autoroutes, les lignes TGV, etc.
Exactement, ils n'auront de cesse que d'essayer de retrouver ces espaces sauvages pour pouvoir, la nature ayant horreur du vide, pour pouvoir à nouveau donner de l'expansion à leur population.
Oh, bon, elle est gentille, Toundra. Moi, je suis à la queue, je suis à la traîne, je suis avec le chien. Bah oui, ils sont partis devant, ils ont beaucoup plus l'habitude, évidemment. Il y a du vin chaud chez vous, il y a des boissons de jeunes filles.
Ah, d'ailleurs, on le sent déjà.
Bah oui.
On sent le vin chaud.
On sent le vin chaud, bon. Le mont Lozère est quand même réputé pour être un coin complètement infernal si on se perd. Et ça depuis des siècles.
Alors, il y a quelques hameaux autour du mont Lozère sur lesquels ils ont construit. Donc, ils ont mis une cloche.
Ouais.
Une cloche qui s'appelle une cloche des tourmentes. et qui permettait autrefois aux gens qui partaient soit en transhumance, soit dans des foires. Il faut noter qu'autrefois, il n'y avait pas toute cette forêt. Ouais. Donc les gens se perdaient beaucoup plus facilement dans la tourmente.
Il y a moins de repères. Quand on lève les yeux au ciel, on a l'impression que les astronomes ont leur bureau qui est ici. Ça palpite partout, ça commence à se lever là très doucement. Mais je ne sais pas si c'est ce mont qui attire les étoiles. C'est stupéfiant, quoi.
Oui, on a vraiment des ciels extraordinaires, remplis d'étoiles, peut-être plus là qu'ailleurs. Une chose qui me rappelle, c'est ces grandes traversées qu'on faisait de nuit sur le mont Lozère. Sous ces étoiles et sous la pleine lune, les étoiles, à un moment donné, elles se confondent presque avec les vallées où il y a aussi toutes ces petites lumières où on ne sait plus du tout où sont les étoiles. Et, et c'est des moments où on se remet un petit peu en question, on s'intériorise un peu, on se ressource.
Et regardez celle-là, on est en train de se dire qu'elle est peut-être morte depuis des millions d'années, cette étoile, et elle continue pourtant à nous envoyer sa lumière.
Il y a un côté intemporel, où peut-être justement, on parlait de tout à l'heure de l'homme préhistorique, lui aussi il l'a vu. Et en regardant toutes ces étoiles, des milliers et des milliers et des millions de gens ont vu ces étoiles aussi.
Et puis là, c'est l'heure du rêve qui commence à intervenir. Enfin, on va pas traîner quand même, hein, parce qu'on va pas non plus se faire balayer quand même par le vent comme des malades. On n'est plus entre chien et loup, on est plus dans le loup que dans le chien. Et puis ça permet de gamberger, quoi. Enfin, parce que là, les formes vont prendre une autre dimension.
Pour moi, la forêt, je l'accepte telle qu'elle est, et dans son ombre, et dans sa nuit, et je me sens chez moi. Donc cette impréhension, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas une opposition en fait à cet environnement. Je crois qu'il est comme il est, et il faut le prendre comme il est, et le comprendre, le cerner, le pourquoi. Pourquoi d'ailleurs des arbres ont cassé par la neige, pourquoi celui-là plus qu'un autre. Et tout ça en fait fait révéler plein de choses.
Quand on ne connaît pas ce mont Lozère, il faut arriver ici dans quel état d'esprit? J'ai un peu l'impression qu'il faut à la fois faire attention avec la nature qui est quand même forte, puis en même temps, il faut lâcher prise.
Quand on arrive à lâcher prise, quand on est ici, qu'on habite ici ou quand on vient de l'extérieur pour passer un moment de détente, on s'immerge dans le mont Lozère, dans tous les sens du terme, parce que l'eau est omniprésente, mais on s'immerge dans ces immenses... Comment on pourrait dire, on disait toundra steppe, c'est un paysage de steppe un peu. Hein,
au sommet, oui. Ouais.
Et c'est une véritable immersion du corps et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il est important de lâcher prise. On ne revient jamais complètement ignorant quand on revient du Mont Lozère. C'est ça qui est important. On apprend énormément de choses sur soi, sur les autres, sur son environnement.
Eh bien, il ne reste plus qu'à dire merci hein, à François Maguigné, à Hugues Paris, à Toundra, mais bien sûr, la chienne. Et puis donc à Xavier Pessugia qui a mixé ce reportage avec Anne-Laure Cochet. Et dans quelques instants, on va ouvrir le nouveau numéro de Terra Echo. Ce sera notre actualité juste après le choix d'Emmanuel Chupin, très agréable, Simon et Garfunkel. Thank you.
Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our lives. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Alors que je vous le dise avant d'oublier, vous avez cette semaine là vraiment à Lorient, une fois un boulot assez remarquable en matière d'environnement. Vous avez le salon régional du développement durable qui s'appelle Terre, à ne pas manquer. Et donc à ne pas manquer non plus, parce que nos amis viennent de Nantes, le numéro 1 en kiosque de Terra Eco avec Walter Bouvet. Walter, ça ce ne sera pas forcément le cœur de notre entretien, mais le dossier principal c'est « Mais où est passée la voiture verte ?»
On se le demande, Denis, on se le demande.
Et alors, on a des chiffres, je sais pas, qu'est-ce que ça...
Je peux poser une question ?
Ah oui ?
Alors, Denis, en 2007, combien de voitures toutes électriques vendues en France ?
Non, moi je suis un garçon très optimiste, je vais vous dire, je sais pas, 5 000 ?
6.
Ah oui !
Sur 2 millions de voitures neuves, 6 voitures électriques vendues en 2007 au particulier.
D'accord, vous pointez bien aussi, même si c'est actuellement une crise monstrueuse et c'est pas marrant d'un point de vue social, mais qu'au-delà de ça, nos chers constructeurs n'ont peut-être pas forcément anticipé non plus par rapport à ce qui allait se passer. Quoi. On a poussé quand même le diesel jusqu'au bout et c'est plus du tout ce que réclament, enfin, c'est beaucoup moins ce que réclament les gens.
Absolument, et ce qu'on voit, c'est que certains constructeurs qui produisaient des voitures électriques, Renault pour ne pas le nommer, ont cessé cette production il y a 2 ou 3 ans, parallèlement au lancement de projets de 4x4,
oui.
Et on voit bien le contretemps absolu des services marketing de ces constructeurs automobiles.
Ça s'appelle avoir du flair.
Qui, d'une certaine façon, aujourd'hui, payent un petit peu leur inertie, leur manque de vision. Voilà.
Donc c'est dommage, ça, on peut le dire.
C'est dommage. Hein,
ah ben oui, non, on peut pas s'en réjouir une seconde socialement parce que c'est très très dur. Mais il y a quand même une réalité aussi qui est là. Bah, ce monde change et là aussi, on a besoin absolument d'autre chose. Alors, nous entendons effectivement cette pluie en train de tomber. Un dossier tout à fait intéressant qui s'appelle « Ils vivent déjà le réchauffement climatique ». Et donc, on va partir avec vous en Thaïlande. Un rivage au bord de la noyade, comme vous le dites, parce qu'en 30 ans, la mer a grignoté 1 km déjà de côte au sud de Bangkok. C'est en train de s'accélérer. Moi, je rappelle simplement que vous avez à peu près 40% de la population mondiale qui vit soit au bord des côtes ou soit à quelques kilomètres des côtes. Donc, c'est extrêmement important. On voit une ville comme Bangkok qui est à 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer et 10 millions d'habitants. Et ce n'est pas simple. Donc, que se passe-t-il exactement là-bas ?
Alors déjà, si on prend le sud de Bangkok, le village où notre reporter s'est rendu, qui s'appelle Kunsamutshin, oui. Voilà, sans l'accent évidemment, ce village lui est déjà sous les eaux. C'est-à-dire que les temples, les maisons sont sous les eaux, envasées, les maisons sont obligées d'être déménagées par les habitants. Donc c'est déjà leur quotidien. Donc on peut toujours se projeter nous et se dire tiens, si j'étais dans cette situation, dans mon quotidien, ma maison, que je devais faire ce genre de déménagement, qu'est-ce que je penserais du changement climatique ? Ça va me toucher dans 30 ans ou c'est déjà une réalité aujourd'hui ? Voilà, ça c'est déjà ce qui se passe.
Et avec un effet de ciseau, parce qu'il y a un sol qui est argileux, qui est mou, qui est en train de s'affaisser d'un ou deux centimètres par an, et puis donc avec la mer aussi donc, qui avance, avec à la fois la dilatation et puis l'augmentation aussi de cette mer. Quoi.
Exactement, donc le risque d'un enfoncement, des questions qui sont posées un peu plus au nord à Bangkok, c'est-à-dire quand les eaux monteront, la ville pourrait se retrouver sous les eaux, puisqu'il y a un potentiel malheureusement de crue qui va jusqu'à 2,50 m. Dans une ville comme Bangkok, il y a des moyens, il y a des fonds qui existent depuis les années 70, hein, c'est pas nouveau pour pallier ces inondations, mais dans un village comme celui-là, eh bien, la population malheureusement est déjà sous les eaux. Alors il y a des tentatives, on plante des pieux de 10 mètres dans l'eau pour essayer de casser les vagues et de retenir les sédiments, de façon à redonner un petit peu de terre et de pouvoir replanter de la mangrove sur ces territoires.
Qui a été détruite aussi beaucoup parce que dans les années 80 a commencé le grand boom de la crevette. Donc on a viré les mangroves et on a creusé des étangs à la place.
Exactement, pour faire de l'élevage. Et là, on voit toute la contradiction entre la nécessité de faire vivre une population locale, de la pêche, de l'élevage à la crevette, et en même temps, le fait qu'elle scie la branche sur laquelle elle est assise, puisque le village s'enfonce et qu'il faut réinstaurer de la mangrove, ce que tentent de faire les populations. Donc ça, c'est le côté positif. On essaie d'en sortir et de trouver des solutions malgré tout.
Un autre sujet. Bien sûr, bien sûr. Mademoiselle, je vous en prie, vous avez toute votre place dans cette émission. En 1993, vous avez une chercheuse allemande qui est partie pister le yaourt, pas la vache, hein, mais le yaourt aux fraises. Et donc, elle a retracé de l'étable jusqu'à notre assiette le parcours. Et ça a marqué les esprits, parce qu'on s'est rendu compte que l'équivalent d'un Paris-La Réunion, c'est-à-dire un peu plus de 9000 km, eh ben, c'était le trajet d'un pot de yaourt. Elle avait pris, elle, une option de pot en verre. Alors, on va se dire, c'est la mondialisation, cher Walter, hein, c'est ça, avec des fraises polonaises, du lait et des betteraves sucrières qui viennent d'où d'ailleurs
qui viennent d'Europe centrale également. Ouais. Le verre est produit. Alors, c'était une étude qui a été faite en Allemagne. Hein. Le verre venait de 200 à 300 km, de 550 km pour certains extraits de zinc qu'on retrouve dans l'emballage en verre. Et les films plastiques venaient de France. Voilà. Donc ce qu'elle a fait, hein, les 9000 km dont on parle, il faut bien dire que c'est le total des ingrédients, enfin le total du parcours des ingrédients mis bout à bout.
Oui, parce que ça se pondère. Hein. Vous avez rencontré donc aussi un ingénieur de l'INRED qui dit que les kilomètres parcourus par l'énergie utilisée et le poids transporté, il faut quand même évidemment en tenir compte. Hein. Donc ce n'est pas forcément les fraises et les ferments, il dit que c'est assez des queues de cerise, mais ce qui pèse, c'est le lait, même transporté par la route, il vient quand même de près le lait. Donc,
Absolument. Et le plus intéressant dans cette contre-étude qui a été faite, c'est que le bilan carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, sont aussi importantes pour le trajet du yaourt que pour le trajet que nous faisons de chez nous à l'hypermarché.
C'est ça, c'est-à-dire qu'entre l'usine et le magasin et le magasin et la maison, c'est à peu près pareil.
C'est à peu près la même chose. Et donc, on a la capacité, nous, très rapidement, de modifier nos habitudes de consommation, d'avoir un effet sur ces émissions de gaz à effet de serre en consommant non seulement plus local, c'est-à-dire en sélectionnant des produits de nos régions, mais aussi en essayant, quand c'est possible, d'aller faire les courses près de chez nous.
Et puis une bonne vieille yaourtière, qu'est-ce que c'est bien, ça c'est pas mal non plus.
Ça c'est ce que disent nos lecteurs sur nos forums, effectivement on a vu ressurgir la yaourtière.
Bah oui,
je suis trentenaire, mais je me souviens avoir goûté mes premiers yaourts dans une yaourtière bleue.
Vous allez revenir, bah oui, puis vous allez revenir à la maison, vous allez voir ça, vous allez goûter ça, on fait ça très très bien. Allez, un autre sujet. On va parler du bio cette fois-ci à l'école. Et vous dites que le bio ne fait pas exactement école. En 2007, juste un petit chiffre, 1 milliard 150 millions de repas scolaires ont été servis et moins de 6 millions comptaient un aliment bio. Alors bon, il n'y a pas de recette miracle. Il faut évidemment faire sa tambouille, on va dire, dans chaque cantine. Qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui veulent, il y a des élus, il y a des décideurs qui le souhaitent, d'autres qui s'en foutent totalement. Mais qu'est-ce que l'on constate?
Déjà, on constate que, en gros, c'est la bataille. Pour y arriver, il faut vraiment aller convaincre les élus. Donc, je rappelle que pour ce qui relève des cantines scolaires, c'est les mairies. Pour les collèges, c'est les conseils généraux. Et pour les lycées, c'est les conseils régionaux. Et ce qui marche, parce que si on regarde les cantines qui arrivent à s'y mettre, c'est parce que les parents prennent le taureau par les cornes et vont voir leurs élus en essayant de faire un peu de lobbying. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, il faut aussi convaincre la réticence des enfants qui trouvent que les pommes ne sont pas belles, qu'un repas sans viande, parfois, c'est bizarre. Même les parents le disent. Est-ce qu'on peut vraiment faire des repas sans viande?
Voilà. Alors qu'effectivement, en ce qui concerne la facture, on est obligé de remplacer les protéines animales en légumineuses.
Hein. Exactement, parce que la viande bio est relativement chère encore aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, ça n'est pas la faire disparaître, mais peut-être en manger un peu moins et effectivement remplacer par des légumes.
D'ailleurs, si on déporte le sujet, là c'est pas le cas, ce sera un autre dossier plus tard, mais sur le monde aussi, si on veut nourrir le monde, on sait très bien qu'il y aura obligatoirement une nourriture qui sera moins carnée et qui va reposer beaucoup plus sur les céréales.
Absolument.
Alors sinon, on constate, il y a eu un très beau témoignage aussi de quelqu'un de la ville de Brest là, qui sort 1 million de repas par an. Il se dit, écoutez, nous dans le Finistère, on a un département mais maraîcher par excellence, c'est vrai, et on n'a que 2% des surfaces aujourd'hui bio qui sont cultivées. Heureusement, il y a un objectif de 20% de restauration collective en 2012. Mais aujourd'hui, ça veut dire importation massive. C'est-à-dire que les carottes, elles viennent d'Italie, les pommes de terre d'Espagne, etc.
Donc... Exactement. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certains magasins bio. Quand on regarde de près les étiquettes, on trouve Italie, Allemagne, Pays-Bas. Et donc, sous prétexte de consommer bio, on se retrouve à faire du transport et des émissions de gaz à effet de serre.
C'est évidemment, oui.
Voilà. Alors qu'on a effectivement tout sous la main. Donc, l'une des idées, c'est la conversion. Hein. Je rappelle que l'objectif du gouvernement, l'objectif affirmé, c'est 20% d'aliments biologiques dans la restauration collective en 2012. Ça ne sera pas simple parce que 2012, c'est demain, c'est dans 3 ans. Mm-hmm. Voilà, il y a du pain sur la planche.
Mais quand même, effectivement, là, dans le Finistère, pour revenir sur cet exemple-là, deux producteurs ont sauté le pas et se trouvent plutôt bien parce qu'ils arrivent à sortir maintenant, effectivement. Des...
Exactement, parce que si les collectivités emboîtent le pas et disent « nous, on va faire des commandes », eh bien derrière, on assure la continuité de la commande et du travail pour ces agriculteurs qui peuvent voir à long terme et aussi construire leur exploitation, la convertir le cas échéant, investir dans le bio. Et ils ont besoin aussi d'avoir une certaine visibilité sur leur activité.
Alors, avant de passer à Darwin, on a deux sujets là. Est-ce que très vite, vous me faites effectivement la publicité de McDo qui nous a vanté donc,
on ne fait pas la pub de McDo.
Non, j'ai bien compris. Comme vous dites, effectivement, ça ne se passe pas toujours comme ça chez McDo. Non, mais eux, effectivement, ils ont fait de la communication là-dessus. Donc, ils ont posé, on va dire, l'éthique sur la table en disant notre huile de friture, c'est déjà le carburant du futur. Ça, c'est vrai qu'ils le recyclent. Même si ça part en Allemagne, pas encore en France, mais en tout cas, c'est le cas. Bon, qu'est-ce que vous avez pointé, en fait, globalement, sur cette publicité?
Déjà, l'idée de cette rubrique qui s'appelle le marketing expliqué à ma mère, c'est précisément de prendre des publicités et de les passer à la moulinette du greenwashing. Est-ce que c'en est? Est-ce que c'en est pas?
Ouais, ça.
L'éco-blanchiment, comme on dit. Bon, là, on dit que plutôt non. Je sais que ça va faire hurler, mais j'assume.
Pas grave.
Que plutôt non, et que McDo fait de vrais efforts sur les structures en bois de ses restaurants, sur la récupération des huiles de friture, sur la gestion des papiers et l'utilisation de papier et carton recyclés. Néanmoins, ce qu'on voit, il y a une grande contradiction, c'est que la viande est principalement importée de l'étranger, enfin en tout cas 50%, que le bio, on n'en voit pas beaucoup, voire quasiment pas.
Les tomates cerises, on les a toute l'année.
Exactement. Ouais. Et donc, il y a encore un travail, je dirais encore un effort à faire, important. Et puis, il y a aussi la question de la variété et de la culture alimentaire, évidemment, mais ça, c'est un autre sujet.
Ben oui, c'est ça.
Posé à une multinationale. Est-ce qu'on impose des recettes du haut ou est-ce qu'on essaie de s'adapter à ce qui se fait dans chaque pays?
Et puis, les petits jouets, ils sont bien sûr fabriqués en Chine. Voilà, ce qui fait que dans le bilan global, vous dites qu'en fait, il y a 4% d'émissions en plus et pas forcément les 8% en moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Voilà.
Alors, il y a un autre sujet, on n'aura pas le temps de l'aborder, mais on y reviendra. On avait reçu Daniel Bessins, qui est un physicien au CEA, qui avait trouvé une équation absolument formidable. Il l'a trouvée pour fabriquer de la rosée en Inde. Donc, regardez aussi cet article, parce que là aussi, on est vraiment déjà dans le demain, dans des pays qui sont désolés, avec 300 millimètres d'eau par an. Eh ben, on arrive. On arrive tant bien que mal, avec des condenseurs, avec une cuisinière solaire aussi à côté, à récupérer 400 millilitres par mètre carré et par nuit, et c'est déjà beaucoup.
Et on appelle ça une usine arrosée.
Voilà. Bah, écoutez, un grand merci à vous, Walter, et puis je vous renvoie à ce numéro de Terra Eco, donc c'est le numéro 1 qui est aujourd'hui en kiosque, et puis à très bientôt pour d'autres actualités.
Merci Denis, à très bientôt.
Petite dose de Darwin avec Marc Giraud. Marc, bonjour.
Bonjour Denis.
Darwin, c'est tout bête, avec un homme donc qui a découvert aussi beaucoup d'animaux. Qu'est-ce qu'il a découvert ?
Plein d'animaux nouveaux, parce qu'en fait, il est parti, chacun le sait, à bord du Beagle pendant 5 ans quand même pour faire le tour du monde, surtout en Amérique du Sud, parce que le pauvre Darwin, en fait, c'était pas un homme de mer, c'était plutôt un homme du mal de mer. Ah. Il était très malade, oui. Et sur ces 5 ans, il est resté qu'un an et demi sur le bateau, parce que dès qu'il pouvait, il allait chercher des fossiles et collecter des échantillons. Donc il a trouvé beaucoup d'animaux nouveaux.
Oui, parce qu'on rappelle une chose, c'est qu'il était géologue au départ. Donc
oui, surtout géologue. Ouais, c'est ça. Mais il s'intéressait à tout. Et il a découvert, par exemple, un oiseau qu'on appelle encore le nandou de Darwin. Mm-hmm. Qui, lui, il a pêché une autruche parce que nandou, c'est venu après. C'est une des deux espèces de nandou qui existent en Amérique du Sud. Alors, il y en a une qui était très connue, qui est le plus gros oiseau d'Amérique encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et il y en avait une plus petite que Alcide d'Orbigny, avant lui, avait découvert, mais pas attrapée. Donc lui, il s'était piqué d'attraper cette autruche et en fait, il n'a jamais réussi. Jusqu'au jour où, en plein repas, il s'aperçoit qu'il l'a dans son assiette.
Ah, on lui a servi.
On lui a servi le spécimen nouveau. Et heureusement, le cuistot avait épargné la plupart des pièces importantes, c'est-à-dire la tête, les pattes, les plumes, la peau, etc. Donc on a expédié tout ce qui restait, ce qu'ils n'avaient pas mangé à Londres et ils ont reconstitué un nandou de Darwin à la Société Zoologique de Londres où on l'appelait à l'époque Rhea Darwini. Donc il était très fier parce que cette autruche avait son nom.
D'accord. Mais en fait, la fameuse autruche, c'est un nandou, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est un nandou, oui. Absolument.
J'ai appris que c'était un mâle très polygame d'ailleurs, le nandou.
Enfin, ah oui, c'est très polygame. Ils connaissaient déjà leurs mœurs parce qu'en fait, le mâle a beaucoup de femelles, mais elles pondent toutes dans le même lit. Et lui, il les couve toutes. Donc, il peut avoir 60 œufs, 60 poussins à couver. Donc, il est polygame, mais bon, voilà. Il s'occupe de tout.
La grenouille de Darwin, qui est celle-là, oui. Elle vivait au Chili aussi.
Oui, tout à fait. Ben, quasiment tout vient d'Amérique du Sud. Oui. Hein. Alors là, elle a des drôles de mœurs aussi, parce que le mâle, en fait, avale les petits. Et elles sont en gestation dans ces poches vocales qui grandissent au fur et à mesure des petits, comme une femme enceinte, si vous voulez. Ça gonfle et il accouche par la bouche. Et c'est le mâle en plus. Et ça, c'est la grenouille de Darwin.
Et donc, ce sont les têtards qui vont sortir, c'est
absolument. Ça ? Absolument. Et voilà, il incube dans la bouche.
Alors, il y en a un autre avec, non pas sa cape et son épée, comment on l'appelle celui-là
le... Ah, Zorro, oui. Renard rusé qui fait sa loi. Oui. En fait, Zorro, c'est le nom espagnol du renard.
Le renard, oui.
Donc, il y a un renard qu'on appelle le Zorro de Darwin, qui est un petit renard qu'il a découvert aussi dans des circonstances assez particulières, parce qu'en fait, ce renard était très, très intrigué par deux personnes de l'équipage du Beagle. Il les regardait. Et Darwin, par derrière, avec son petit piolet de géologue, lui a donné un grand coup sur la tête.
Bling.
Et voilà, il a eu son échantillon comme ça.
Très bien. Enfin, très bien. Non, pas forcément très bien. Enfin,
pas,
comme ça,
pas hein. Pour le renard, c'est d'ailleurs, bien, il était assez ironique. Il a dit ce renard aimait particulièrement les sciences. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Marc Giraud, Darwin, c'est tout bête, aux éditions Robert Laffont. On se retrouve très vite. Au revoir, Marc.
Au revoir, Denis.
Et un grand merci à Olivier Daligaud et à Céline Bonhomme à la technique aujourd'hui, à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, et puis notre cyberdocumentaliste Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2.